nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur le 106.6 FM, www.campuslille.com et sur le DAB+. Et nous sommes en compagnie de Jean-Louis Dubois, ingénieur, musicien, blogueur et auteur passionné d'opéra, pour la parution de son premier livre, Tout l'opéra ou presque, qui est aussi le titre de son blog, une véritable encyclopédie numérique sur le sujet. Alors avant toute chose, votre commentaire, Jean-Louis Dubois, sur cet extrait de Verdi que vous avez choisi.
C'est sublime, très émouvant. C'est extrait de la Traviata, donc c'est le, vers la fin, quand Violetta revoit sa vie, elle sait qu'elle va mourir et elle regrette son amour perdu.
Donc c'est un morceau qui vous touche beaucoup.
Ah, beaucoup, oui.
Bon ben nous aussi en fait, ça tombe bien. En fait, comment cette passion pour l'opéra s'est invitée dans votre vie ?
En fait, elle est très lointaine, ma passion pour l'opéra, puisque j'ai eu la chance, en étant encore, non pas enfant, mais adolescent, de pouvoir découvrir à Rouen, je suis originaire de Rouen, tous les opéras de Wagner dans de très belles productions. Et à la même époque, sur France Musique, j'écoutais beaucoup France Musique et j'ai beaucoup appris grâce à ça. Et voilà, le virus, il vient, il a 45, il a 50 ans, presque 50 ans.
Il est bien ancré en tout cas.
Il est bien ancré.
Donc vous faites des études d'ingénieur et pas de musique, mais vous vouliez quand même pratiquer la musique à un moment.
En fait, je n'ai pas eu la chance de faire d'études musicales. Mais quand je suis arrivé à Paris pour exercer mon métier d'ingénieur, ma passion pour la musique m'a poussé dans les salles de concert, à Pleyel, à l'opéra, où j'ai découvert plein de choses. Et assez vite, je me suis rendu compte que c'était être spectateur, être auditeur, c'est bien, mais c'était pas suffisant. J'ai voulu faire de la musique. Donc, comme j'avais déjà un grand âge, hein, j'avais plus de 25 ans, je ne pouvais pas me mettre au piano ou au violon. Et j'ai choisi l'instrument qu'on peut démarrer le plus tard dans la vie, c'est-à-dire la voix. Et j'ai pris des cours de chant.
Et même des cours de solfège, du coup.
Et un peu de solfège quand même, pour pouvoir lire les partitions.
Ben voilà. Alors, vous avez chanté dans des chœurs avec Michel Picmal et Claire Marchand. Donc, en fait, vous avez commencé sous de bons auspices.
De très bons auspices. J'ai eu cette chance, absolument.
Vous n'avez jamais eu envie d'abandonner votre métier pour devenir musicien à temps plein ?
Non, parce que je connais mes limites. Je connais mes limites, c'est une passion. J'aime beaucoup chanter, mais je ne suis pas professionnel, très clairement. J'ai eu l'occasion de chanter dans le chœur de chambre du Conservatoire de Lille, là, qui était un chœur semi-professionnel. Bon, c'est une chance qui m'était offerte et j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qu'on a pu faire avec Claire Marchand, mais je sais que réellement, je n'étais pas à ma place à côté des professionnels.
Oui, mais vous avez, j'imagine, beaucoup appris. Alors, vous allez peut-être justement me dire qu'est-ce qui sépare l'excellent amateur du professionnel ? Elle est où, cette limite ?
Bonne question. En fait, je pense que le professionnel, je vais plus que le penser, par ses études au conservatoire et autres, il apprend à réagir très très vite et à mémoriser énormément. Alors qu'un amateur, le chef pourra dire, le chef de chœur va dire, bon là, vous ralentissez, vous chantez plus fort et tout. Il est obligé de le répéter plusieurs fois avant que le chœur ne se mette à le faire. Vous prenez un chœur professionnel ou un orchestre professionnel, le chef il dit la chose une fois et il n'a pas à le répéter.
C'est une rapidité de réaction.
Voilà. Ça s'apprend.
Oui, ça s'apprend. Et puis c'est la grande habitude aussi.
Oui.
Qu'est-ce qui vous fascine dans la voix ? Parce qu'il n'y a peut-être pas que parce que vous aviez 25 ans, vous avez commencé le chant. Il y a peut-être autre chose.
La voix, c'est le seul instrument de musique qu'on a avec soi, qu'on a toujours avec soi. Si j'avais choisi le piano, j'aurais peut-être eu des problèmes pour transporter mon piano avec moi, alors que la voix, moi, je peux chanter tout le temps. D'ailleurs, dans ma tête, je chante tout le temps, et mes collègues au travail me disaient « Mais pourquoi tu chantes ?» Parce que je chantais en travaillant.
Oh, c'est
je
sympa,
chantonnais.
Ça.
Ça dépend pour qui. Non, non. Ils aimaient bien, les collègues.
Oh, bah, surtout si vous fredonnez Verdi ou Mozart. Voilà. Alors, votre fascination pour la voix, oui, mais plutôt du côté de l'opéra.
Pas forcément. Les leaders de Schubert, c'est pas de l'opéra. Et il y a tout un monde fabuleux qui s'ouvre à nous. Il y a des très beaux oratorios aussi qui ne sont pas de l'opéra. Et Handel écrit des choses magnifiques dans l'oratorio qui ne sont pas des opéras.
En tant que chanteur, c'est quoi votre répertoire préféré?
Je pense que c'est quand même la musique baroque. Enfin, j'ai eu l'occasion de chanter sur les 4 siècles que représente l'histoire de l'opéra, y compris des créations contemporaines. Mais l'été dernier, j'ai fait un stage de musique baroque et là, je me suis vraiment senti à ma place.
Vous avez chanté quoi? C'était dans quel cadre?
C'était un stage d'été. On a chanté du baroque italien, notamment la musique de Galluppi, qui est un compositeur qui n'est plus très connu, mais qui était extrêmement célèbre à son époque. Il a remplacé Vivaldi quand Vivaldi a arrêté d'écrire des opéras. Après, on l'a appelé à Londres pour écrire des opéras quand Handel a cessé d'écrire des opéras. Donc, il était connu dans l'Europe entière. Bon, maintenant, on ne parle plus beaucoup. Et j'ai découvert cette musique en stage et c'était très beau.
Et vous vous êtes régalé.
Ah, complètement. J'étais à ma place.
Bon, bah alors, c'est parfait. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'un jour, vous chantez à l'Opéra de Paris dans les chœurs et vous avez vu débuter Nathalie Dessay. Ça, c'est pas banal.
Ah, ça, c'est intéressant comme anecdote. Alors, c'était pas l'Opéra de Paris, c'était au Théâtre du Rond-Point, sur les Champs-Élysées. C'était à Paris. C'était dans le cadre d'une production qui est en 1989. Donc, on chantait Joseph de Méhul dans le cadre des cérémonies du bicentenaire. Et donc nous choristes, c'était une production professionnelle, mais le chœur, enfin j'ai chanté dans les chœurs, c'est-à-dire la seule fois de ma vie où j'ai gagné de l'argent avec ma voix. Et le metteur en scène, producteur, nous avait dit, pour tel air, là, il y avait un rôle qui avait un air, et j'ai trouvé une petite jeune, on va entendre parler d'elle. Et effectivement, elle avait un air, donc elle chantait au milieu du chœur. J'étais à côté de moi dans le chœur. C'était Nathalie Dessay qui débutait. C'était sa premier engagement professionnel. L'année d'après, elle a eu son grand prix au Mozarteum de Salzbourg. Et puis sa carrière internationale est partie. Voilà. Mais j'ai chanté à côté de Nathalie Dessay.
Voilà. Et du coup, vous n'avez plus jamais chanté à côté de Nathalie Dessay.
Ah, plus jamais.
Alors, dans quel état d'esprit vous avez créé votre blog « Tout l'opéra ou presque » et maintenant ce livre ?
Alors l'esprit, en fait, je suis plus sur un esprit de transmission et de partage. J'ai eu la chance, effectivement, de recevoir beaucoup, de chanter avec des très bons chefs de chœur, des très bons musiciens. Et j'ai vraiment reçu beaucoup. Et puis, en fait, c'est en discutant avec un de mes collègues qui s'apprêtait à partir à la retraite, qui disait, va falloir que je fasse autre chose que travailler, et c'est ouvert à la culture, et on discutait beaucoup, et en fait je me suis rendu compte que j'avais effectivement acquis au fil des ans une certaine culture musicale dont je ne me rendais pas compte avant, et j'ai commencé en fait à écrire un livre en pensant à ce collègue. Et assez vite, je me suis trouvé confronté à la difficulté de comment écrire sur la musique sans faire entendre la musique. Et en fait, l'idée du blog est venue tout naturellement parce que j'ai transformé mon livre en billet de blog et ce que j'écrivais, je pouvais le faire entendre en mettant des petites vidéos sur le blog. Et retour des choses, au bout d'un certain temps, ça fait 4 ans et demi maintenant que mon blog existe, j'ai eu une demande de la part d'amis blogueurs d'avoir un livre qui reprendrait certains de mes articles, d'où voilà. Mon livre qui vient de sortir.
Donc la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée.
Alors la musique, vous connaissiez, mais faire un blog techniquement, c'est peut-être pas si évident que ça.
J'ai appris sur le tas. C'est sûr que si je reprends mes tout premiers billets, ceux d'il y a 4 ans et demi, je ne les écrirais pas du tout de la même manière, mais...
Alors, je ne pensais pas à la technique d'écriture, je pensais à la technique tout court. C'est-à-dire, que se lancer dans un blog... Oui.
J'ai quand même un passé d'informaticien, j'ai 30 ans d'informatique, pense que j'ai pu m'y mettre relativement rapidement.
C'était une information que je n'avais pas, effectivement. Ça change tout. Alors, en tout cas, vous avez mis en exergue de votre blog « Je ne peux pas, j'ai opéra ». Bon, j'ai l'impression que pour vous, l'opéra, c'est tout le temps ou presque. Alors, comment ça se passe? Vous courez l'Europe entière? Vous faites toutes les salles d'opéra?
J'aimerais bien, mais non, je me limite. Alors déjà, on a la chance à Lille d'avoir un très bon opéra. Et à côté de l'opéra Lille, on a aussi l'Orchestre National de Lille et l'Atelier Lyrique de Tourcoing. Donc il y a quand même une offre musicale très intéressante. Et je me rends régulièrement à Paris, où il y a qui a une heure de Lille de oui. En TGV, donc c'est relativement facile. Sinon... J'aimerais bien, effectivement.
Bruxelles, vous pourriez.
Je songe sérieusement à Bruxelles et à Liège, qui n'est pas très loin voilà. Non plus, où il y a le théâtre royal de l'Opéra royal de Wallonie. Donc,
et puis il y a Gand aussi, qui a une bonne programmation. Ouais. Il vous manque encore quelques villes, pas très très loin. Ouais. Vous avez des programmes.
Même Londres.
Oui, même Londres, effectivement. C'est un petit peu plus compliqué que le Brexit, mais bon. Oui. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on trouve dans votre blog? Expliquez-nous pour quelqu'un qui n'y est jamais allé, qu'est-ce qu'il va y trouver?
Alors, le blog, il s'appelle historiquement tout l'opéra ou presque, mais en fait, je pense que je consacre à peu près autant de temps à l'aspect littérature qu'à l'aspect musique. En fait, maintenant, quand je parle de mon blog, j'ai dit c'est un blog consacré à la littérature et à la musique. Donc, je publie un billet tous les 3 jours. Et en gros, sur un mois, je me débrouille pour qu'il y ait un compositeur, 2 opéras, un écrivain, soit qui a été mis en musique, par exemple Shakespeare. On ne compte pas le nombre d'opéras qui ont été écrits sur les pièces de Shakespeare. Et puis après, des sujets variés, divers...
Oui, effectivement, j'ai vu que dans votre blog, vous parliez de littérature, mais aussi de cinéma, de poésie, de BD, les Fables de la Fontaine.
Je suis large.
Voilà, c'est ça. Mais à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait un fil avec l'opéra, un lien.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est pas ce qui manque.
Je trouve toujours.
Oui, effectivement. J'ai même vu d'ailleurs que dans un article récent, vous aviez parlé des méchants et des méchantes de l'opéra. Et puis un autre sur l'arc-en-ciel dans les opéras. Mais ouais. Alors, comment vous viennent ces idées qui sont annexes, je dirais, par rapport à la description d'un opéra.
Complètement. Alors, les méchants, c'est parce que j'ai vu Tosca à l'Opéra Bastille il y a environ un mois, et il m'est revenu que le personnage de Scarpia est quand même vraiment très, très, très méchant. Il y a beaucoup de méchants à l'opéra, il y en a à peu près un par opéra, normalement, mais être méchant à ce point-là, il n'y avait pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme autre très méchant à l'opéra. Voilà, et du coup, le billet est venu sur les méchants et les méchantes à l'opéra.
Oui, c'est ça. Ben, les sujets sont inépuisables.
Ah, complètement.
Et même l'arc-en-ciel,
j'ai
ça fait...
J'ai écrit aujourd'hui 680 billets et j'en ai 180 en préparation.
En fait, vous devez passer un temps fou pour aller chercher les illustrations musicales.
C'est ce qui me prend le plus de temps. Ouais. Écrire un billet, une fois que j'ai l'idée, ça va relativement vite. Par contre, après, c'est trouver la bonne vidéo, le bon extrait. Et ça peut prendre du temps, oui.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur votre livre aussi, on peut écouter de la musique, puisqu'il y a un QR code qui renvoie aux vidéos du site.
Tout
ça, c'est
fait.
Effectivement très, très pratique. Alors, pour ce livre, vous proposez, il me semble, 57 compositeurs classés chronologiquement. Sur quels critères s'est fait ce choix?
Éminemment subjectif. Donc, sur mon blog, j'ai beaucoup plus que 57 compositeurs ou compositrices qui sont chroniqués. Donc, là, j'en ai quand même pris qui... je me suis recentré sur l'opéra. Par exemple, il y a des compositeurs qui sont sur le blog qui n'ont pas écrit d'opéra, mais je les aime bien, donc je les chronique. C'est la liberté du blog. Donc pour le livre, j'ai fait une sélection sur l'opéra. Donc il y a tous les plus grands, évidemment, Mozart, Verdi, Wagner, ça c'est sans problème. J'ai quelques compositrices qui sont aussi assez intéressantes. Donc il y a par exemple Francesca Caccini, qui était contemporaine de Monteverdi, qui est la première femme à avoir écrit un opéra. Donc, elle n'est pas très connue, mais je tenais absolument à ce qu'elle soit dans ce livre. J'ai aussi le cas de Louise Bertin. Alors, Louise Bertin, c'est le 19e siècle. Elle a écrit un opéra. Alors, je vous parlais des écrivains. Victor Hugo, par exemple, est un écrivain qui a été aussi adapté à l'opéra. Il y a des dizaines d'opéras écrits sur les pièces de Victor Hugo. Mais Louise Bertin, c'est la seule pour laquelle le livret a été écrit par Victor Hugo lui-même. Donc c'est quand même intéressant, je pense, à dire dans l'histoire de la musique. Et alors cette musique, en plus, est complètement tombée à l'époque de la création pour des raisons politiques, à cause des idées politiques de son père. Mais la musique était tellement bonne qu'on l'a attribuée à Berlioz.
Ah. Ça, c'est un bon signe, on va dire. Je dirais malheureusement.
Voilà, donc c'est le genre d'histoire que j'aime bien raconter parce que c'est...
Alors justement, puisqu'on parle des compositrices, on continue après Caccini et Louise Bertin, vous parlez de Pauline Viardot et Lili Boulanger. Ah oui. Si je ne me suis pas trompée dans mon compte, ça fait 4 compositrices sur 57.
Absolument.
Alors j'ai l'impression qu'on peut mieux faire, et moi je vous suggère de consacrer un livre entier exclusivement aux compositrices.
Ah, ce sera peut-être le volume 4 demain.
Comment ça 4? Mais le volume 2 déjà?
Ah non, le 2, ce sera les écrivains.
Ah,
il d'accord. Est déjà écrit, donc.
Ah oui, s'il est écrit, effectivement. Mais voilà. Voilà, ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça montre bien quand même le déficit simplement de connaissances. On ne sait pas, il faut vraiment chercher pour trouver des compositrices qui en plus ont écrit des opéras. Parce que les compositrices, on va en trouver
voilà,
un peu plus, mais il faut qu'elles aient écrit des opéras. Et là, je dirais bonne chance pour rechercher parce que c'est un vrai travail de Romain, mais qui demande à être fait, je pense. Parce qu'on est dans cette mouvance de valoriser effectivement toutes ces femmes qui sont complètement tombées dans l'oubli. Et puis même aujourd'hui, hein, les compositeurs dans le monde entier dominent. Enfin, les femmes, c'est un pourcentage. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça s'améliore peu.
Il y en a de plus en plus.
Il y a beau y en avoir de plus en plus.
À Lille, on a eu la création de Laïc Flèche en début d'année, de Sivan Eldar. C'était d'ailleurs très bel opéra.
Et vous aviez fait un billet sur votre blog, d'ailleurs. Oui, mais voilà, c'est une femme sur 3 saisons, 4 saisons, 5 saisons, 10 saisons. Voilà, mais c'est simplement représentatif de la réalité du paysage musical mondial. Je ne dirais même pas français, mais mondial. Bon, alors pour réaliser ce blog, j'imagine que ça a été pour vous le meilleur cursus de musicologie, car maintenant vous connaissez les œuvres sur le bout des doigts.
Presque.
Parce que...
Mais je connais bien, oui.
Oui, c'est ça, parce que ça, en fait, vous analysez, vous racontez l'histoire, vous mettez les vidéos, et donc ça fait une espèce de petite analyse qui décortique chaque opéra.
Complètement. J'ai chroniqué plus de 100 opéras, et là, à chaque fois, ça m'oblige, pour raconter l'histoire, à reprendre le livret, raconter de manière simple l'histoire, parce que des fois, c'est pas très très simple, et puis après, de chercher les passages musicaux les plus intéressants pour donner envie aux gens d'écouter ces opéras qui ne sont pas toujours très connus.
En plus, avec les extraits musicaux, ça donne plus envie. Eh bien, Jean-Louis Dubois, merci. Je conseille en tout cas à tous les auditeurs qui ont envie de découvrir l'univers de l'opéra d'aller faire un tour sur votre site, Tout l'opéra ou presque, ou de se procurer votre livre. Et même si on n'en est pas au stade de la découverte, mais qu'on connaît tous les opéras, on peut aller tout à fait utilement consulter vos billets sur justement l'opéra qu'on va aller voir, par exemple. Vous n'avez peut-être pas fait un billet sur Ces Mêlées, mais voilà, pas encore, mais bientôt il y en aura un. Et donc voilà, si on ne connaît pas tout ça très très bien, on peut aller sur votre blog.